L'épître de Jacques, je sais que vous avez lu, si vous avez lu Matthieu chapitre 19, mais la semaine dernière, on était un tout petit troupeau, la semaine dernière, il y avait de la neige, et la semaine d'avant, il était encore plus petit, moi, j'étais même pas là non plus la semaine d'avant, je crois, donc c'était à cause de la neige encore, mais cette fois, le Seigneur a permis plus de monde. Donc, on va continuer sur ce qu'on a commencé dans Jacques chapitre 5. On était au chapitre 5 de l'épître de Jacques. C'est le dernier chapitre, hein. Donc, on arrive vers la fin. On avait lu les 6 premiers versets. Nous allons revenir sur ces 6 premiers versets. Jacques chapitre 5. À partir du verset 1. Et je vais lire à vous maintenant riches. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Le rouille s'élève en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris et les cris des moissonneurs dont sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résister. Voilà, ce sont des paroles fortes, hein, de la part de Jacques, qui s'adresse, on avait dit la semaine dernière, un peu, le texte commence comme il commence au verset 13, « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui, nous ferons ceci, etc. cela. » Et Jacques était en train de dire qu'il y a des personnes qui prennent des décisions sans consulter Dieu. Ils disent, aujourd'hui, je vais faire ceci, demain, je vais faire cela. Ils montent des plans de carrière, mais en écartant complètement Dieu. Et Jacques dit, vous devriez dire si Dieu le veut, parce que vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conscients de cela, et ça doit être un témoignage auprès de ceux qui nous entendent, que nous remettons toujours les choses à la volonté de Dieu. Hein. J'ai un collègue, il m'appelle Dieu voulant. Alors, il me dit, mais c'est presque pas à cause de moi qu'il m'appelle comme ça, c'est à cause d'un élève qu'il avait. Donc, on a eu l'occasion de parler d'évangile avec lui. Et il me dit, mais j'avais un élève dans le temps, il disait toujours Dieu voulant. Tu vois? Donc, il me dit, donc vous êtes pareil, bon, c'était la même, donc j'ai eu l'occasion de lui présenter l'évangile. Et donc, quand il me voit, il m'appelle Dieu voulant. Donc c'est assez comique. Bon, en soi, bon, ça nous ouvre des portes pour pouvoir discuter quand même de l'évangile. Mais c'est vrai que ça peut être un témoignage pour nous, hein, de dire aux gens, voilà, que nous plaçons bien sûr sous la volonté de Dieu et que nous prenons pas nos décisions tout seul. Alors Jacques disait à vous qui dites ça, faites attention. Et puis maintenant il dit à vous riches. Alors il va les inviter à faire un certain nombre de choses. Alors, il semble que ce ne soient pas forcément des personnes qui étaient dans l'assemblée à qui Jacques écrit ici, mais c'est une manière peut-être d'interpeller les personnes qui sont de conditions modestes, hein, et puis pour leur révéler un certain nombre de choses concernant les richesses. Peut-être que, vous savez, quand vous êtes de conditions modestes et puis peut-être opprimés, parce qu'il parle de personnes qui sont opprimées, qui n'ont pas touché leur salaire, etc., quand vous souffrez, parfois on peut se dire, mais si j'étais riche, hein, ça serait peut-être différent. Voilà. Même en tant qu'enfant de Dieu, si seulement j'avais un peu plus, ça serait différent, peut-être on me respecterait plus. Hein, ça me rappelle une fois une petite musique qui disait, ah, si j'étais riche, hein, et puis voilà tout ce que je ferais si j'étais riche. Et parfois, le croyant peut aussi penser comme cela. Je crois que Jacques parle de cette manière d'une manière forte, et cela permet de faire résonner un certain nombre de vérités concernant la richesse. Donc, ce n'est pas la première fois que Jacques parle de la richesse et de la pauvreté. On avait déjà vu cela la semaine dernière. Hein, dans le chapitre 1, il en parle. Dans le chapitre 2, il en parle. Dans le chapitre 4, il en parle. Et dans le chapitre 5. Okay? Donc, 4 chapitres sur 5, l'apôtre Jacques parle de cette question de richesse et de pauvreté. Alors, qui aimerait avoir un peu plus, hein? Je pense que si on nous posait la question, peut-être on dirait pour faire spirituel, non, moi, ça va. Hein. Mais peut-être parfois on se dit, mais c'est vrai qu'avec un petit peu plus, peut-être que ça serait un petit peu mieux. Et qui n'aimerait pas pouvoir mettre un peu plus de côté aussi, parfois, hein, épargner un peu plus. Parfois c'est difficile, mais on pense aussi que quand on a suffisamment de côté, eh bien, on est à l'abri. Hein. J'ai entendu quelqu'un qui n'avait pas très longtemps qui me disait, bon, c'est vrai que j'ai un travail où je suis bien payé, je suis à l'abri du besoin. Okay. Bon, si on compte sur le travail et sur ce qu'on a de côté pour être à l'abri du besoin, Dieu peut... Rappelez que dans Agée, il dit ça dans Agée, vous aviez amassé et j'ai soufflé dessus. Donc il ne faut pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, on pense que parce qu'on aura mis de côté ou parce qu'on aura un bon travail, on est à l'abri du besoin. Humainement parlant, oui, mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus de tout ça, il y a Dieu qui tient dans ses mains toutes choses et les temps, les circonstances, il élève et aussi il abaisse. Hein. Et je crois que c'est un petit peu, il faut avoir cette toile de fond pour saisir un peu tout ce que Jacques dit ici. Et l'accent vraiment est mis sur... Si on lit notre texte, sur ceux qui amassent, le verset 2 dit « Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par la teigne, votre or et votre argent sont rouillés, etc. » Et puis à la fin du verset 3, il dit « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » Donc quoi qu'il s'adresse à ceux qui sont, enfin, pas directement en tout cas, mais en tout cas, il parle de ceux qui sont riches, et qui le sont devenus par les richesses qu'ils ont amassées. Alors, la Bible n'est pas contre la richesse. Ça, c'est, il faut le souligner. Dieu, c'est Dieu qui donne même la richesse. On a des personnages dans la Bible qui étaient des personnages très riches et proches de Dieu aussi. On parle d'Abraham, par exemple, était quelqu'un qui était très riche, qui avait beaucoup de richesses. Il y a d'autres personnes, on pense à Philémon, hein, à l'église de Colosse, c'était quelqu'un qui avait des esclaves, qui avait un certain nombre de richesses. La Bible n'est pas contre les richesses, mais si nous lisons bien ce que Jacques dit ici, elle est sur cette question d'amasser ou de chercher les richesses indépendamment de Dieu. C'est pareil que ceux qui vont faire des plans indépendamment de Dieu, verset 13, il y a ceux qui cherchent les richesses indépendamment de Dieu. Alors on va regarder un petit peu ce que Jacques dit ici concernant ce sujet. Premièrement, il dit qu'il y a un malheur, le malheur menace ceux qui amassent les richesses. Il dit, le ton vraiment est très sévère. Il dit, à vous maintenant riches, qu'est-ce qu'il leur dit ? Réjouissez-vous parce que Dieu... Non, il dit... Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Franchement, normalement, on aurait plutôt tendance à penser que quand on est riche, le malheur s'éloigne. Hein? Si vous lisez le psaume 73, hein, qu'est-ce qu'il dit, hein, à Azaf? Il dit ça. Hein, il dit le méchant, il est là, il a de l'embonpoint, il est tout gras, il mange bien. Il dit sa richesse s'accroît, etc. Et moi, je te sers. Il dit je souffre. Et donc on a plutôt l'impression du contraire ici. Mais Jacques dit attention, il dit à vous riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Alors le sens de ici pleurer, c'est vraiment de se lamenter, de pleurer fort avec des sanglots. Hein. Comme quand on perd quelqu'un, par exemple en Matthieu chapitre 26, il est question de Pierre qui pleurait amèrement, après avoir renié le Seigneur. Et donc, ce mot décrit vraiment des pleurs, des lamentations qui sont poussées par quelqu'un qui a perdu un être cher. Marc, chapitre 5, par exemple, au verset 38, On peut lire, « Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit la foule bruyante et qui pleurait et poussait de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et donc, quand Jacques dit « pleurer », il dit « voilà, il dit pousser, il dit crier, pleurer, gémissez », parce que il faut pas être heureux de la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive sur vous. Il dit « gémissez ». Et c'est un mot qui, on appelle ça une onomatopée, c'est un mot qui sonne comme ce qu'il veut dire, hein, comme quand on dit murmurer, c'est-à-dire ça fait, on grogne. Donc ça fait un bruit qui ressemble au mot, hein. C'est un petit peu la même chose ici pour gémisser. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes utilisaient beaucoup ce mot pour décrire la réaction du méchant au jour du jugement. Il dit, voilà, il faut gémisser parce que le jour du jugement arrive sur vous. Soyez dans les larmes, pleurez parce que ce qui arrive est terrible. Par exemple, en Ésaïe 13, verset 6, on lit « Gémissez car le jour du Seigneur est proche ». Et il semble que dans l'Ancien Testament, le mot soit toujours dans un contexte de jugement. Alors, gémissez parce qu'il y a quelque chose de terrible qui va s'abattre sur vous. Et donc on peut dire que le contexte dans lequel Jacques aussi l'utilise ici, c'est un contexte de jugement, de malheur qui va s'abattre sur les personnes qu'il décrit, qu'il dénonce ici. Donc il dit « à cause », il le dit d'ailleurs, « à cause des malheurs qui viendront sur vous ». Donc Jacques dit qu'il y a une désolation intense qui vient sur les riches en guise de punition, que Dieu leur infligera au jour du jugement. Pas simplement parce qu'ils sont riches, c'est pas ça, hein, on est d'accord, mais parce que ils sont riches d'une certaine manière, et d'une manière qui n'honore pas Dieu. Et Jésus disait un peu, enseignait aussi la même chose, hein, en Luc chapitre 6, rappelez-vous, il dit « Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation ». Ils se sont déjà consolés dans des choses sans s'occuper, préoccuper des autres. Alors Jésus leur dit « Malheur à vous, parce que vous avez déjà votre consolation. Malheur à vous qui, il ajoute, malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ». Cela sous-entend qu'ils étaient rassasiés alors que d'autres ne l'étaient pas. Ils ne pensaient pas à ce qu'il fallait faire. Donc il dit maintenant, vous êtes rassasiés, eh bien, malheur à vous. Hein. C'est comme ceux qui cherchent, qui ont déjà leur récompense en se justifiant aussi eux-mêmes. Il dit, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Et vous vous rappelez bien l'histoire que Jésus raconte de Lazare et de l'homme riche. Hein. Donc on va pas regarder ce texte, mais l'homme riche qui vivait vraiment, qui menait brillante et joyeuse vie, et à côté, à sa porte, il y avait le pauvre Lazare dont les chiens venaient lécher les ulcères. Et après leur mort, eh bien, cet homme s'est retrouvé dans les tourments. Et puis, donc c'était vraiment son, il vivait maintenant son malheur. Il a eu sa richesse pendant son temps sur la terre, mais sans considérer Dieu, sans considérer Lazare, sans considérer ce qu'il pouvait faire pour cet homme. Et après, il souffrait pas simplement parce qu'il était riche, mais parce qu'il ne s'était pas tourné vers Dieu et n'avait pas utilisé les richesses comme il aurait dû les utiliser. Donc, Jacques dit ici qu'il y a un malheur sur ceux qui amassent les richesses de cette manière sans considérer Dieu. Et il dit, vous devriez pas vous réjouir, mais vous devriez plutôt pleurer et gémir parce qu'il y a un malheur qui arrive sur vous. Et ça, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, on pourrait voir aussi que la folie, Jacques décrit, hein, c'est une dénonciation qu'il fait ici, hein, la folie de ceux qui amassent des richesses de cette manière. Il dit, vos richesses, regardez verset 2, vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par la teigne, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élève en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Donc il souligne ici qu'ils agissent avec folie. Leur folie est montrée par leur aveuglement sur l'inutilité de telles richesses. C'est-à-dire quand on amasse pour rien faire avec, ça devient inutile. Et ici, il dit, et à l'époque, bon, là, ils avaient trois sortes de biens. En gros, hein, c'était on pense un peu qu'il s'agissait ici, quand il dit vos richesses sont pourries, on peut penser à la nourriture, hein, stocker des grains ou des choses comme cela. Hein. Rappelez-vous, hein, l'homme riche qui avait une abondante récolte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engrangé ses biens dans des greniers, il a construit de greniers plus grands pour stocker ses biens. Donc, il stockait de la nourriture et probablement, voilà, il dit ça pourrit, hein, parce que c'est stocké là et ça sert à rien. Et puis il dit là les beaux vêtements. Deuxième signe de richesse, c'était les vêtements qu'on mettait. Hein. C'était je sais pas maintenant tout le monde apporte de beaux vêtements, plus ou moins chic, etc. Mais à l'époque, je suppose il y avait avoir des beaux vêtements, c'était pas donné à tout le monde. Hein. Et donc c'était signe de richesse. L'apôtre Paul, par exemple. Hein, en Actes chapitre 20, il dit « Je n'ai désiré l'argent ni les vêtements de personne ». C'est-à-dire qu'il y avait ces deux classes d'actifs, on pourrait dire, qui témoignaient que de la richesse des gens. Et Jacques dit ici « Mais les vêtements que vous avez aussi, eh bien, ils sont rongés par la teigne, par les mythes. Et puis votre or et votre argent, eh bien, ils sont rouillés. » C'est une manière de dire que ces choses sont là, et ne servent à rien. Elles sont inutiles. Elles sont inutiles. Et c'est de la folie que de stocker des choses qui ne servent absolument pas. Voilà. Et donc les qualificatifs hein, de ces richesses montrent vraiment leur inutilité. La nourriture avariée, les vêtements rongés par les mythes, le métal précieux qui rouille. Ce qui est amassé pour le seul but d'être amassé est inutile. Est inutile. Et on ne devrait pas agir de cette manière-là. Donc là, il dit même que la dégradation des richesses, regardez, devient un témoin, comme on a l'impression qu'on est dans un tribunal, et la rouille, la teigne, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre, et la pourriture, hein, vont témoigner contre ces personnes qui ont stocké ces choses. C'est une manière de dire que cette dégradation que l'on peut voir sont le témoignage de l'inutilité des biens que vous avez et biens que vous avez eus. Donc ils montrent leur folie ici par l'aveuglement qu'ils ont sur l'inutilité de telles richesses, mais aussi leur folie par le manque de discernement du temps présent, du temps dans lequel ils vivent. Regardez ce qu'il dit au fin du verset 3. Il dit, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Okay. Et ce que la Bible appelle les derniers jours, c'est vraiment c'est l'instant que nous vivons. Hein. C'est-à-dire entre la première venue et la seconde venue de Jésus-Christ. Et on a beaucoup de textes dans l'Écriture qui parlent de ces derniers jours. L'apôtre Pierre parle des derniers jours, l'apôtre Paul parle des derniers jours, sache que dans les derniers temps, les hommes seront, etc., etc. Et la période où nous vivons, eh bien, c'est la période on est dans les derniers jours et on attend le retour de Jésus. Et donc, il dit que ces personnes agissent, mais sans discerner qu'on est dans les derniers temps. Ça me fait penser un petit peu à, je sais pas si vous vous rappelez, Géasi et Élisée. Et lorsque Élisée lui dit, il avait couru après des vêtements, encore là, des vêtements, vous voyez, comme pour rattraper ça, prendre de l'argent, etc. Et puis Élisée lui a dit, mais est-ce le temps d'amasser, est-ce le temps de s'enrichir, de construire des maisons, de faire ceci, etc., de prendre des vêtements. Et il l'interrogeait sur ce discernement que l'on doit avoir du temps dans lequel on est. Quel est le calendrier de Dieu? C'est ça qui est une chose importante et que les hommes doivent faire. Ces choses ne sont d'aucun bénéfice spirituel, ni maintenant, ni au jour du jugement. D'accord. C'est-à-dire stocker pour stocker, etc., ça n'apportera rien lorsque Christ va revenir. Et Sophonie 1:18, par exemple, dit « Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. » Et l'enfant de Dieu doit vivre en considérant cela. Nous sommes dans le temps où nous attendons le retour de Christ. Nous devons considérer cela, Christ revient, et ne pas agir de manière inconsidérée, surtout avec les biens et les moyens que Dieu nous donne. Donc ici, voilà, la folie, je pense, Jacques montre ici hein, la, la folie de ces personnes qui amassent les richesses. Ils sont aveuglés sur l'utilité d'une telle accumulation et surtout ils manquent de discernement parce qu'il dit voilà vous amassez ça alors que la fin est proche hein, on est en train d'aller vers la fin. C'est comme je sais pas si vous avez j'avais lu l'histoire un peu du Titanic quand il y avait ces gens et que le bateau était en train de couler, hein. Il y avait beaucoup de personnes riches apparemment sur ce bateau, hein. J'avais lu qu'il y avait des personnes qui avaient des comment on appelle ça des rivières de diamants, de trucs, c'est pas quoi, enfin des colliers de perles de valeur très grande valeur, et qui étaient en train de se défaire de ces choses pour avoir une place dans une chaloupe. D'accord, pour pouvoir essayer de se sauver du bateau. Oui. Et c'est un petit peu ça pour avoir cette image-là. C'est-à-dire que alors que il y a une fin qui approche, on peut pas être en train de s'agripper ou de s'amasser des trésors. Et puis alors qu'il y a un grand danger qui est en train d'arriver, par exemple, on peut pas. C'est impensable. Et donc Jacques dit ici la même chose. Il dit c'est de la folie que d'amasser pour soi des choses qu'on va pas garder alors que le Seigneur est en train de revenir. Donc il faut être conscient de cela. Et puis troisièmement, il montre aussi les péchés vraiment spécifiques de ceux qui amassent les richesses de cette manière. Il montre leur injustice. Verset 4. Regardez le verset 4. Il dit voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur. Il montre premièrement donc leur injustice sociale. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles des seigneurs des armées. Ces riches, apparemment, n'ont pas payé les ouvriers qui ont travaillé dans leur champ. Ou n'ont pas payé complètement les ouvriers qui ont travaillé dans leur champ. C'est même pas qu'ils ont payé en retard, c'est qu'ils ont gardé une certaine partie, parce que le texte dit vous les avez frustrés de cette partie de leur salaire. Et nous sommes habitués, nous, à recevoir notre salaire en fin de mois. Donc on travaille pendant un mois, quand on va au travail le 1er février, on regarde pas le patron avec des gros yeux parce qu'il nous a pas payé le 1er février, au soir. Mais à l'époque, là ici, vous voyez, les gens étaient parfois utilisés à la journée. Rappelez-vous l'histoire que Jésus raconte, quand il dit qu'un homme a le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui va et puis qui embauche des ouvriers. Il y avait les ouvriers de la première heure, les ouvriers de la seconde heure, etc. Et le texte dit ceci, il dit « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire. » Et c'est comme cela qu'un bon intendant fait. Il embauche et à la fin de la journée, il devait payer le salaire des ouvriers. Et la loi même de Moïse disait cela concernant les ouvriers. Par exemple, on trouve ça en Lévitique chapitre 19, verset 13, mais je vais vous lire dans Deutéronome 24, verset 14. Il dit « Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Mais non, c'était quelque chose de grave que de ne pas payer un ouvrier qui a travaillé à la fin de la journée, surtout que c'était des gens qui étaient relativement pauvres, et Dieu dit, ils attendent cela, et tu n'as pas le droit de retenir ni de différer. Alors, il y a beaucoup de, on pourrait lire d'autres textes, Jérémie 22, verset 13, Malachie 3, verset 5, il y a beaucoup d'autres versets qui parlent de cet aspect de ne pas retenir le salaire de l'ouvrier. Et notez que Jacques ne dit pas simplement que ces moissonneurs crient vers Dieu, mais il dit que la partie frustrée du salaire crie aussi. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Hein. Il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crie. Okay? C'est-à-dire, Dieu a les yeux sur ce qui n'a pas été payé, qui aurait dû être payé aux autres. Il voit exactement tout ce qui se passe. Et donc, il dit que les moissonneurs crient, leurs cris sont parvenus, Dieu les entend, aux oreilles du Seigneur des armées. Il laisse entendre que le Seigneur enverra, c'est un petit peu comme ça qu'on peut le comprendre, hein, ses armées pour exercer son jugement sur ceux qui agissent de cette manière à l'égard de ceux qui sont dans le besoin, de ces riches propriétaires qui agissent de la sorte envers ceux qu'ils emploient. Donc, et ces choses, n'est-ce pas, arrivent encore de nos jours, où des personnes ne sont pas payées comme elles devraient être payées, ou parfois des patrons diffèrent de payer, et même quand les gens sont payés au moins, des fois il arrive que pendant, ça traîne un peu, le patron fasse attendre, etc. Ça peut arriver, des choses comme cela. Et ça peut arriver, bon, pour des raisons économiques, bien sûr, mais ça peut arriver à cause de la cupidité des patrons aussi, hein, de ceux qui ont les moyens. Retenir l'argent pour ne pas... Hein, ne pas le donner tout de suite à ceux qui doivent le recevoir. Donc, voilà, Jacques montre qu'ils étaient injustes, socialement injustes, et mais il décrit aussi leur vie de luxure. Il dit, vous avez vécu sur la terre dans la volupté et les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Il y a un contraste ici qui est établi entre les pauvres privés de leur salaire, et puis les propriétaires qui vivaient la belle vie, hein, sans se priver de rien du tout. Ils menaient une vie faste et sans retenue. Hein. C'est le sens qu'a ici les voluptés et les délices. Ils se livraient à la poursuite des plaisirs en tout genre. Et on voit parfois, même encore dans notre monde, hein, comment ceux qui ont parfois de gros moyens vivent... non seulement vivent bien, mais ne se privent de rien, et tout est autorisé, tout est permis, y compris la débauche la plus extrême. Donc, ça n'est pas réservé, bien sûr, qu'à ceux qui ont des moyens. Il y a ceux qui n'ont pas de moyens qui vivent dans la débauche aussi. Mais on voit comment, parfois, avec les moyens, eh bien, on vit d'une manière de plus en plus dépravée, dans les plaisirs, dans la luxure, de manière vraiment débridée, parce qu'on peut tout s'acheter. On peut s'acheter les matériels, on peut s'acheter aussi des personnes. Et donc, on vit d'une manière extrêmement débridée. C'est ce que Jacques dit. Il dit, vous avez vécu dans la volupté et les délices. Ici. Rappelez-vous le fils prodigue. Hein? Qu'est-ce que le texte disait concernant le fils prodigue? Il dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voyez, voilà comment il a fait. Et puis, Jacques souligne aussi hein, le caractère impitoyable de ces riches propriétaires. Il dit, vous avez condamné et vous avez tué le juste et qui ne vous a pas résisté. Et le mot condamné ici, ça veut dire vous avez prononcé une sentence. Apparemment, on semblerait que voilà, peut-être que parfois quelques ouvriers saisissaient la justice pour demander que justice leur soit faite, eh bien, mais ces riches propriétaires arrivaient et puis pouvaient soudoyer la justice, et puis ces petits, comme on dit, hein, eh bien, n'avaient aucune chance. Ils étaient pas tués physiquement, mais légalement, quoi. Ils étaient déboutés devant la justice et ils ne pouvaient pas résister. Donc, ils avaient aussi un caractère impitoyable. Donc, voilà, Jacques dit, à vous, riches, maintenant, gémissez, pleurez, parce que le jugement arrive sur vous. Voilà ce que vous avez fait. Voilà comment vous avez vécu. Je termine juste avec quelques mots pour nous de conclusion là-dessus. Dieu n'est pas contre la richesse, hein, on l'a dit tout à l'heure. C'est lui qui la donne à certains. Seulement, le cœur mauvais de l'homme, il faut le reconnaître, hein, dévoie ce que Dieu donne et en fait un usage qui est contraire à la volonté de Dieu. Les richesses, quand même, présentent un danger réel. Il faut être conscient de cela. Les richesses présentent un danger réel. On peut dire, mais je vais me débrouiller avec quand même, donne-moi, je vais voir, hein, etc. Mais ça présente un danger réel. Et Jacques le souligne, l'Ancien Testament le souligne, Jésus le souligne à plusieurs endroits. Je vais juste lire ce que Paul dit, par exemple, dans Timothée. Il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés dans bien des tourments. » Dans le texte que vous avez lu tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 19, vous rappelez de ce que Jésus dit, « Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Ça veut dire que c'est compliqué, hein, parce que essayer de faire passer un chameau par le chat d'une aiguille, hein, il passe votre vie. Et il dit que c'est plus difficile, d'accord, plus facile à faire ça que... C'est une image qu'il donne pour montrer que voilà, les richesses peuvent être quelque chose qui crée un gros obstacle. Mais il dit, à Dieu, c'est pas impossible de sauver. Les disciples demandent, mais qui peut être sauvé? Il dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, ça n'est pas impossible. Dieu sauve qui il veut. Mais il dit qu'il faut être conscient que l'attachement, les richesses peuvent conduire à un attachement qui rende les choses spirituelles difficiles. Et puis, les moyens que Dieu donne sont des opportunités pour servir les autres. Ce que ces riches n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas vu qu'ils pouvaient, avec ce que Dieu leur a donné, servir ceux qui sont en face d'eux, payer les salaires comme il faut, et puis subvenir aux besoins des pauvres. L'apôtre Paul disait, recommande aux riches d'être du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Dis-leur de ne pas mettre leur confiance dans les richesses, mais d'être généreux. C'est-à-dire de faire correspondre leur richesse à la pauvreté des autres. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, en fait, il faut saisir les opportunités que Dieu donne. Les richesses, les biens que Dieu nous donne sont des opportunités. Vous dites, bon, ben moi, je suis pas riche, ça me concerne pas tout ça. Nous sommes tous riches de ce que Dieu nous a donné. Nous avons une maison, nous avons un moyen de locomotion, nous avons du temps, nous avons un peu d'argent. Il faut nous poser la question. Il faut pas regarder ces riches-là comme des... Non, ce que Jacques dit ici nous concerne tous... Faut savoir qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous a donné. J'ai une maison. Est-ce que ma maison ou mon appartement, c'est un endroit où je reçois les autres? Je vois ça comme une opportunité pour recevoir les autres, pour exercer l'hospitalité. Dieu m'a donné du temps. Est-ce que je vois ça comme une opportunité pour prendre ce temps, pour prier pour les autres, pour les visiter? Ou est-ce que c'est mon temps pour moi, pour regarder la télé ou faire autre chose, je sais pas, pour me distraire, pour me divertir. Donc on peut, pour chaque chose que nous avons, nous pouvons réfléchir comme cela. Parce que pour chacune de ces choses, Dieu va nous demander de rendre compte de notre administration. À ceux qui ont eu des grands biens matériels, il demandera de rendre compte pour leur administration. Mais à ceux qui ont eu de petits biens matériels aussi, il demandera de rendre compte pour leur administration. Donc c'est important pour nous de considérer ces choses, de voir, de demander à Dieu quelles sont les opportunités qu'il met devant nous avec ce que nous avons. Sinon, nous sommes pareils. Hein, nous risquons de tout amasser autour de nous et de ne, comme Jésus disait dans Luc 12, de ne pas être riche pour Dieu. Hein. Et nous devons apprendre à être riche pour Dieu avec ce qu'il nous donne et à être généreux avec ce que Dieu nous donne. Avec le peu qu'il nous donne, nous devons apprendre aussi à être généreux. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Juste on peut penser à ce que disait le proverbe, il dit « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi ce qui m'est nécessaire. » Ça peut être une prière que nous faisons à Dieu, hein. Que Dieu nous aide à nous contenter de ce que nous avons, ne demandons pas d'être pauvres, mais ne courons pas non plus après la richesse, qu'il nous donne ce qui nous est nécessaire, qu'il nous donne d'être reconnaissants avec ce qu'il nous donne, et d'investir ce qu'il nous donne dans les autres aussi. Prions. Seigneur, nous te